18h, c'est votre rendez-vous rire de l'après-midi, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier, bonjour.
On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie de Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Pierre Bénichou qui me fait signe que je parle trop fort parce qu'il est en train de téléphoner.
Non, mais n'importe quoi, éteins ton téléphone.
On dirait ces connards qui sont en voiture et qui veulent pas se faire griller, qui téléphonent discrètement, tu sais, sur le côté. Là,
que je crois qu'il passe. C'est entre midi et 2h. Je suis à l'antenne, monsieur.
Non, mais c'est ton coiffeur.
À quelle heure est-ce que je peux venir?
C'est pas
midi,
vrai.
Une heure et demie ou deux heures. Eh ben d'accord, l'un des trois. Au revoir, monsieur.
C'était ton coiffeur?
Oui.
Ne mettez pas Christine Bravo de mauvaise humeur avec vos histoires personnelles, parce qu'elle a les siennes.
Ça se... quel genre d'histoire?
Ah, je ne sais pas. Ça,
ça n'a rien de financier,
je la sens contrariée encore.
J'ai reçu un SMS de mon fils, BJR, donc bonjour, mom. Tu VS, tu vas être grand-mère. Alors ça, c'est déjà, ça ouais, me fait pas du ouais, bien. Ouais. Maintenant, les bébés arrivent par texto. Et alors, j'ai répondu MDR, évidemment, morte de rage. Et 2 heures après, j'avais la photo de l'échographie sur mon WAP. Alors, c'est un mâle, c'est la réincarnation de Pépito.
Votre chien mort la semaine dernière. Bah, voyez, c'est formidable. Alors... vous perdez un chien, vous gagnez un petit-fils.
Mais enfin, bon, en même temps, on peut pas savoir, je vais peut-être l'aimer quand même, hein, petit-fils.
Ce serait mieux.
Mamie, voilà. Bravo, c'est pas mignon,
eh
ça?
Eh ben, écoute.
Non, mais voilà. Moi, parce qu'il y a qu'une chose qui m'alerte là-dedans, c'est que écrire en texto, on a tous des petits-enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui écrivent en texto. Mais un mec qui est déjà à l'âge d'avoir un enfant et qui écrit encore en texto, là, c'est grave. Là, c'est un cas de suicide pour une maman.
Ouais. En tout cas, ça va vous transformer. Regardez, Pierre Bénichou, c'est la seule chose qui, quand il est un peu de mauvaise humeur, ce qui arrive rarement, hein, mais quand il est un peu de mauvaise humeur, on lui parle de sa petite fille, et là, d'un seul coup, hop, il a le sourire qui revient.
Ma petite fille, oui, oui.
Alors, comment ça fait?
D'être grand-père?
Oui.
Grand-père, tu seras jamais, toi. Oui,
en tout cas, tu peux préparer les bodys, ma grand-mère est une relou, quoi.
Quelques mails d'auditeurs. David qui m'écrit: dans votre émission de jeudi dernier, monsieur Bonaldi a parlé de la LED en traduisant ses initiales par Light Electroluminescent Display. Malheureusement, pour monsieur Bonaldi, LED se traduit par Light Emitting Diode. Alors Jérôme, vous répondez quoi?
Mea culpa.
Bah alors, vous nous racontez n'importe quoi.
Mea culpa. Oui, oui, bah j'étais fatigué, c'était jeudi dernier, pardon.
Dans l'émission de jeudi dernier, oui, Jérôme Bonaldi a dit tout le mal qu'il pensait des ampoules conventionnelles, qu'il fallait délaisser au profit des LED à basse consommation. Ça ne m'étonne pas de lui. Car quand il s'agit de faire rougir son petit filament dans un endroit sombre et d'envoyer le courant alternatif, croyez-moi, mon Jérôme Mounet, il sait y faire. Signé Lucienne, la permanente de la rue Saint-Denis en face du shopping, qui ne nous avait pas écrit depuis longtemps. C'est Gérard qui nous écrit: Madame la ministre des Finances a annoncé son intention de supprimer les niches. Mais alors, qui va monter la garde? C'est assez rigolo. Un autre mail. Dear Laurent, in the emission of lundi dernier, Christine Bravo has said that she was testeuse des voitures de grand luxe when she was journalist for le magazine Automoto. Ouais. It was yesterday.
C'était hier.
J'en sais quelque chose. The dernière fois that I have croised Christine Bravo, she was not in a Porsche, mais une Fiat Panda, signé Lady Di.
Oh, c'est très drôle, ça.
Nos auditeurs ont de l'humour.
Mais c'est vraiment un auditeur qui écoute
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Mais à quoi ça sert d'engager des gens qui sont bien meilleurs? Ça
s'appelle ouais. Gérard. Bon, puis alors là, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, Fabrice Eboué. Ah. C'est Amar qui m'envoie un extrait d'un site internet qui s'appelle Que sont-ils devenus.net et dans la catégorie humoriste, on trouve Fabrice Eboué, qu'est-il devenu? Bon, écoute, dès qu'on fait plus de télé, voilà, voilà ce qui se passe. Vous êtes dans la catégorie que sont-ils devenus?
Qu'est-ce que je suis devenu, là?
On est peu de choses. Depuis septembre 2006, Fabrice Eboué
a disparu,
qui intervenait sur M6 dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, a disparu des écrans à la rentrée dernière. Depuis 2008, on le retrouve dans l'émission de radio de Laurent Ruquier. On va se gêner. Ils sont bien informés, quand même. Que sont-ils devenus, point net? Voilà.
D'accord.
Ça fait un choc, quand même.
Bah, je voudrais pas voir les autres noms qui sont près du mien, à savoir, je sais pas qui peut y avoir, les musclés ou des gens comme ça, Cambier, etc. Donc,
Audrey, qui habite Lorient, est là, heureusement, pour vous soutenir. Je suis sûr que vous êtes une fan de Fabrice Eboué. Audrey, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, j'adore Fabrice Eboué et puis Christine Bravo.
Bonjour, Audrey.
Bonjour.
Tu as quel âge?
27 ans.
27 ans. Pas Pierre Bénichou, non, parce que là, il râle dans son coin, Pierre.
Ah, si, si, j'aime bien aussi Pierre Bénichou.
Ouais, j'aime bien aussi, ça marche pas du tout avec moi. Il y en a d'autres pour qui c'est une aubaine. Pour moi, c'est une punition quand je dis ça.
Faites quoi dans la vie?
Bénichou aussi, on dit évidemment, je n'ai pas cité en premier Pierre Bénichou parce que j'ai eu peur de mon mari, voilà, un truc comme ça.
Non, pas du tout.
Quel est votre métier, Audrey?
Je ne travaille pas, je m'occupe de ma petite fille qui a 2 ans et demi.
Ah, vous travaillez un peu quand même, parce que c'est du boulot, hein, 2 ans et demi quand même. Ah, 2 ans et demi, c'est trop vieux pour avoir un body.
C'est trop vieux, mais elle attend peut-être un autre bébé.
Non, pas encore.
Elle ne sait peut-être pas.
Audrey, vous allez affronter Yannick, qui lui est parisien. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour à tous.
Alors
bonjour.
Vous, quelle est votre profession?
Bonjour Yannick.
Je suis pâtissier.
Pâtissier, oh, ah, c'est chouette. Alors là, vous nous écoutez depuis votre laboratoire?
Non, je suis en repos aujourd'hui.
En repos aujourd'hui, tiens, oui, les pâtisseries sont fermées le mardi.
Non, nous sommes ouverts tous les jours, mais il faut bien se reposer de temps en temps.
Mais vous avez votre propre pâtisserie ou vous êtes pâtissier, je sais pas, dans un restaurant?
Non, je travaille pour un pâtissier traiteur de luxe.
Lequel?
Daloyau.
Daloyau.
Ah, Daloyau, ouais. Très bien, Daloyau.
Très cher. Ah,
ouais. Monsieur Delanoë se fournit chez vous, hein, chez Paloyau. Audrey contre Yannick et contre, évidemment, les chroniqueurs ici présents. Voici la première question du jour. Attention, je pense qu'il va falloir être rapide pour cette question-là. Pouvez-vous me dire où travaille le patron de bistrot Roland Marcy?
Au Mistral à Marseille.
Oh.
Dans Plus belle la vie.
Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Oh non, Michalak.
Alors là, n'aurais pas cru qu'il y aurait un jour des questions d'érudition sur Plus belle la vie. Je savais que le destin ne prévoyait rien, que parfois on tombait. Non mais là, tomber dans une émission où c'est érudition dans Plus belle la vie.
On a chacun notre registre.
Bah, écoutez quand même, vous rendez compte, il y a un prime ce soir, 6 millions de téléspectateurs chaque jour, c'est énorme. C'est un phénomène de société, Pierre Bénichou.
Tout le monde déteste ça, sauf le public.
Et très franchement, j'étais persuadé que ici autour de la table, personne ne saurait, parce que évidemment, vous regardez pas, vous, mais que nos auditeurs, eux, répondraient plus vite. Audrey, vous regardez pas Plus belle la vie?
Non, du tout, non.
Alors, voilà, vous pouviez pas savoir. Et vous, Yannick?
Non plus, jamais.
Eh ben voilà, ils auraient pas.
Tu remarqueras que 6 millions, c'est pile le nombre de chômeurs en France, quand même. Hein.
Ah, mais il y a des produits dérivés, Plus belle la vie, maintenant, hein, des t-shirts, du linge de maison, des shampoings, des romans, des jeux de société, un site virtuel, Plus belle la life.
Bien ça, Plus belle la life. C'est un truc.
Avec 220 000 inscrits sur Plus belle la life. Et puis, pendant 6 mois, les comédiens ont porté des vêtements que l'on pouvait acheter ensuite dans le catalogue Quel. Qu'est-ce qu'il y a, Christine?
Mais écoute, je ne comprends pas.
Ah, c'est bien.
C'est-à-dire, c'est mal joué.
Oh non.
Les textes sont nuls.
Je pense que t'es pas assez vieille, en fait.
Écoute,
c'est parce que t'as une vie de merde, Christine, ça s'appelle Plus belle la vie, tu comprends pas. Il y a des gens qui sont heureux tous les soirs, ça te dérange, c'est tout.
Non, écoute, arrête. J'ai essayé de regarder, justement, pour voir.
Non, mais c'est précurseur. Moi, je savais pas, je connaissais pas. Dans Le Parisien, ils nous disent, par exemple, que c'est le premier lieutenant de police homosexuel qu'on a pu voir. On n'avait jamais vu un policier homo. Bon, bah, il y en a un dans Plus belle la vie.
Du coup, les scènes de fouilles, 3 heures à chaque fois, c'est un peu.
Ça doit être ça. Hein, voilà. Il voit ce détail-là qui fait que, évidemment, ça explose.
Non, mais alors, il est amoureux d'un garçon qui s'appelle Thomas, mais il est mort, le flic homo. Il est mort.
On croit qu'il est mort.
Et il revient ce soir.
Il revient ce soir.
Et toi, tu dis que tu reviens pas.
Ce soir, parce qu'il dit, tu as dispersé ses cendres.
Mais tu regardes.
Ah oui, en fait,
mais non, je regarde pas, j'ai écouté au poste.
L'un des héros préférés des téléspectateurs, Nicolas Barrel revient d'entre les morts ce soir. Son amant n'est pas prêt de s'en remettre.
Et Godin, il joue?
Ah non.
Elle se balance.
Christine qui fait « Ah bon ?»
Je savais pas.
Donc quoi?
Ah ben non. Ben
tu savais pas?
Non, je savais pas. Non.
Que Godin était marseillais, tu ne savais pas.
Alors on se retrouve dans un instant après la pub et on applaudit. Vous êtes toujours là, Audrey et Yannick?
Oui, toujours là.
Bah, c'est bien de vous être mêlés de la conversation comme vous l'avez. On vous embrasse l'un et l'autre, Audrey et Yannick.
On va gêner Laurent Ruquier.
Ah, Pierre Bénichou, vous voulez des questions plus compliquées, des questions politiques. Vous pensez que plus belle la vie, c'est, voilà, c'est trop bas de gamme pour vous. Ben, voilà une question politique et une question difficile.
Bien sûr.
Et je vous somme d'y répondre, cher Pierre Bénichou.
Je ne crois pas.
Quel rôle important a joué ces dernières 48 heures, monsieur Mao Péninou?
Monsieur, pardon.
Péninou. Mao Péninou.
Bon, c'est un socialiste?
C'est un socialiste.
Il est parisien?
Il est parisien.
Il est plutôt un copain de Delanoé?
Pas tout à fait.
C'est pas un journaliste?
Non.
C'est un militant socialiste?
C'est plus qu'un militant socialiste.
C'est un membre du parti, un membre important du parti.
Important, en tout cas, on connaît pas tous, hein, mais
Il a créé le dialogue entre Delanoé et Aubry, peut-être.
Alors, plus précisément.
C'est lui qui est à l'origine du rapprochement de Delanoé.
À l'origine, c'est pas le mot.
C'est son forfait téléphonique qui a servi. C'est lui qui a payé le téléphone.
Qui a prêté son portable.
C'est lui qui a transmis à Madame Aubry que Monsieur Delanoé est la soutenir.
Non.
Il est pro-Bertrand.
Non.
Au contraire, il est plutôt Lillois, plutôt Aubry.
Il est plutôt Aubry.
Bon.
Alors. Mais il est parisien.
Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Là, on cherche une...
Quel rôle a-t-il pu jouer dans le ralliement de Bertrand Delanoé à Martine Aubry? Ça, vous l'avez compris qu'il s'agit de ça.
Il a prêté son appart.
Non.
Ils sont allés bouffer chinois chez Mao Péninou.
Et il a appelé Martine.
Non, mais vous connaissez pas les trames de la politique, vous,
non,
alors.
Non.
Bien sûr.
Si tu appelles à voter Aubry, je serai candidat à la mairie de Paris.
Non, au contraire.
Ou la boulangerie, ou le contraire.
Il est avec Aubry, alors.
Si tu rallies Aubry, je ne serai pas candidat à la mairie de Paris.
Alors,
pour les prochaines.
Pas à la mairie de Paris, mais.
Mais au présidentiel.
Mais non.
Mais enfin,
je vais pas vous payer nous candidat au présidentiel.
Non. Mais vous racontez. Parce que vous connaissez pas la politique.
Mais oui.
Mao Péninou, on en parle beaucoup.
On s'en met tout pas.
On est tout proche de la bonne réponse.
La députation en Ile-de-France.
Pas la députation. Je vous ai dit qu'il y avait quoi?
Des fédérations.
Voilà. Alors, il y a quoi à la tête de chaque fédération?
Un chef des socialistes parisiens.
Voilà. Et alors, il était quoi, Mao Péninou?
Il était candidat.
Et qu'est-ce qu'il vient de faire?
Il a sa place à Delanoé en échange du soutien.
Il retire sa candidature. Voilà ce qui s'est passé depuis dimanche.
Je te laisse Paris, mais donne le parti à
Hier,
Martine.
On a appris hier que Mao Péninou, qui était derrière la motion Martine Aubry, a retiré sa candidature au poste de premier secrétaire fédéral en Île-de-France au profit de Monsieur Ferraud, qui lui était le candidat du camp Delanoé. Voilà comment ça se passe, la politique intérieure. Et la politique nationale se joue sur des enjeux locaux. Bonne réponse de Fabrice Éboué et Christine Bravo. Alors, Pierre Bénichou.
Eh ben oui, voilà, ça m'aura échappé. Moi, je croyais pas que la politique, c'était des petites magouilles comme ça. J'aurais jamais cru ça.
Bon, alors là, ça change tout, hein, depuis hier, quand même.
Ça change qu'une chose, c'est que Martine Aubry va gagner.
Revenons sur le changement.
Moi, je trouve que l'argument de Ségolène Royal est fort, de faire appel à cette notion de vieux parti, avec Jospin et Fabius qui reviennent. Eh ben moi, qui suis pas militante et qui n'ai pas de carte, je trouve que c'est fort pour la jeunesse. C'est un symbole fort. C'est-à-dire que c'est vrai que t'as pas envie de voir revenir ces gaillards-là, normalement.
Non, mais je pense que tu as totalement tort. Les références de la partie politique aux grands anciens sont au contraire des facteurs de succès.
Mais les grands anciens qui sont pas eux-mêmes des symboles de succès, je suis désolé.
Jack Lang aussi appelle aujourd'hui à voter Martine Aubry. Alors c'est vrai que ça fait toute une liste assez étonnante. Jack Lang, Bertrand Delanoé, Lionel Jospin, Laurent Fabius, François Mitterrand aurait appelé aussi à voter Martine Aubry.
Non, ton argument est bon, en particulier dans la voix de Benoît Hamon. Lui, il a les mêmes arguments que Ségolène en disant c'est les vieilles barbes, le retour des éléphants. Lui, il est plus crédible, plus légitime.
Eh ben oui.
Ce qu'elle est un peu moins pour Ségolène.
On serait dans Plus belle la vie, Léon Blum serait revenu, ça aurait été plus simple. Quoi.
On va Gêné continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Bénichoux très en forme, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué et notre Jérémy Joujou Michalak National.
Autre question, puisque dans un instant, nous aurons au téléphone Lorenzo Pancino. Lorenzo Pancino, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais pourtant vous entendez sa voix régulièrement, et particulièrement sur les chaînes musicales. Pour quelle raison ?
Parce qu'il fait tous les jingles et toutes les pubs de quasiment qui passent à la télévision, Lorenzo.
Non, non.
C'est sur une radio en particulier ?
Non, c'est sur...
C'est télé ?
C'est en ce moment, ça a un gros succès, et évidemment...
Il double quelqu'un ?
Alors, il double quelqu'un. Doubler, c'est pas tout à fait le mot.
Il chante ?
Alors, il chante, oui.
Et il parle aussi ?
Il parle aussi, mais là, particulièrement, il chante.
Il fait la promotion d'un disque en particulier ?
Oui, tout à fait.
Celui de Roberto Lagna ?
Ah non, quand vous dites il fait la promotion, non,
il chante.
Il chante son disque à lui. Fait son propre disque.
C'est son propre disque.
Enfin, son propre disque. C'est pas, il est pas tout seul, mais c'est...
Pourquoi on connaît pas son nom ?
Ah ben, c'est toute la question.
Groupe. Il est parmi un groupe, un chœur ?
Pas un groupe, non.
Vous connaissez pas son nom parce que vous êtes pas des fans de la radio des années 90.
Pardon,
une manécanterie, la manécanterie des petits chanteurs sur la croix de bois. Monseigneur Maillet.
Est-ce qu'il participe à un clip ?
Oui.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'est greffé sur le clip de quelqu'un d'autre.
Alors il s'est greffé sur un clip, oui et non, c'est ce clip justement qui a...
De Julien Doré ?
Non, un clip qui a beaucoup de succès en ce moment.
Non, mais par exemple, ça pourrait être un clip promotionnel pour une personne politique ou
pas du
comme ça.
Ah, promotionnel pour une personne politique.
J'en sais rien, ça pourrait être une chanson comme il y avait eu à l'époque Strauss-Kahn va gagner ou ce genre de choses-là.
Ah, on se rapproche en tout cas.
C'est un clip qu'on a forcément vu qui passe en boucle sur les chaînes musicales.
Bah, attends, il a un succès parce qu'il est choquant ?
Choquant, non, mais c'est drôle.
C'est français.
C'est en tout cas la nouvelle star du web, sur internet, ça circule partout.
Ah, est-ce que c'est le clip où on voit le Sarkozy en bling bling, en pâte à modeler, ou en je sais pas quoi, en dessin, qui danse et qui chante?
Nicolas Sarkozy, vedette d'un clip de rap. Nicolas Bling Bling, c'est la chanson du moment. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et c'est Lorenzo Pancino qui prête sa voix au Sarkozy, chanteur de rap. Bonjour, monsieur Lorenzo.
Ah ben moi, je vous dis bravo, hein. C'est formidable. Je vous le dis bonjour.
Non, c'est pas facile de faire Sarkozy qui chante.
Ah, mais d'autant plus qu'au départ, quand mon copain Sylvain Delmé, le réalisateur du clip, m'a appelé, il m'a dit « Tu vas chanter, je sais pas chanter, tu vas faire Sarko, je sais pas imiter Sarko ».
J'ai vu le clip, qui est assez rigolo, hein. On voit effectivement le président de la République faire du footing, mais dans des coffres-forts, il appelle sa femme qui bronze au soleil, il s'adresse aux Français, il glisse au passage un clin d'œil à Patrick Poivre d'Arvor, et là, il chante « Moi, j'ai pas de pétrole à te filer, j'ai juste des potes dans le
dans
BTP,
le BTP. Ah bah oui, hein.
Ceux qui ont fait des bottes en béton au mec qui m'a traité de petit garçon ». Sont les paroles de la chanson. On écoute vite un extrait, quand même.
Yo, salut à toi mon cher concitoyen. Tape en five, c'est moi qui reviens. Moi je te le dis, pendant l'été j'y réfléchis. Je me suis dit, les discours à la papa ça suffit. J'ai dit à ma femme, faudrait un truc délire. Elle m'a dit,
t'as qu'à faire un clip qui déchire.
Ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas con comme idée.
My boss, my boss, my big boss.
I'm the boss, man.
My boss, my boss, my big boss.
En vérité, je vous le dis, c'est moi le roi, le king. I am the king of bling bling, ok? J'ai fait des promesses à tour de bras. J'ai promis plus de pouvoir d'achat. Et de ce côté-là, pour moi,
ça cartonne en ce moment.
Bah, j'adore
les chaînes musicales. Il faut dire que visuellement, hein, évidemment, nous, on peut pas vous le montrer, mais visuellement...
Moi, je fais des gestes, hein, vous pouvez le voir.
Visuellement, c'est très réussi, le clip. Vous l'aviez vu, Michalak ?
Oui, ouais, bien sûr, je l'ai vu à la télévision. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, quoi. Mais surtout, en plus de ça, Lorenzo, qui est un mec qui fait... ce que vous ne savez pas qui est Lorenzo Pancino. Moi, je sais qui c'est. Parce que moi, j'ai la grande culture de la radio, Lorenzo.
Alors, allez-y.
Moi, c'est le mec qui m'a donné envie de faire de la radio quand j'avais 15 balais.
Ah,
il était animateur sur Fun Radio. Il m'a même fait gagner un scooter quand j'avais 14 ans, Lorenzo.
C'est vrai, ouais. mais c'est Jérémy là.
Mais bien sûr.
Non, j'ai cru que c'était le rugbyman Michel.
Ah, tu l'as pas vu.
Mais alors quand vous l'avez connu, il était tout petit, Jérémy.
Ah, il était tout petit, il démarrait. Il a un talent monstrueux. Il chantait chez un pote. Il chantait avec une guitare. Il était incroyable. Il improvisait des trucs extraordinaires, ce petit gars.
J'ai fait mes premières partouzes à 14 ans. Merci.
Exactement.
Le clip, en tout cas, qu'on peut voir sur MTV en ce moment avec Sarko bling bling, est assez spectaculaire, hein, visuellement. C'est ce que dit Emmanuel Marol dans Le Parisien, et c'est une petite société de production de films publicitaires qui s'appelle Mixus qui a réalisé ça, c'est bien ça ?
C'est ça, c'est à Boulogne, Mixus, avec le réalisateur Sylvain Delmé. Il y a 3 mois et demi de boulot dessus, quand même, et 3 mois et demi, mais avec que des gens bénévoles, c'est-à-dire personne n'a touché quoi que ce soit sur ce clip. Et en fait, c'est parti véritablement d'un pur délire. Moi, quand j'ai pu voir sur les forums que plein de gens disaient oui, ça a été repris par le PS, par ça a été payé par Sarko, etc. Non, 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 c'est parti d'un pur délire. On était, ils m'ont appelé, ils m'ont dit tiens, est-ce que tu veux faire un délire? J'ai dit ouais.
C'est en 3D, hein, le clip, on l'a pas expliqué,
ouais, 3D,
mais c'est en 3D. Et est-ce qu'il y a des réactions de l'Élysée déjà?
Pas du tout pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Non.
Bon, on peut voir le clip pour ceux qui ont envie d'aller sur Internet constater de visu la drôlerie de cette affaire-là. On peut voir le clip sur leclipquideschire.com.
Tout à fait.
On vous applaudit et on vous remercie. Monsieur Lorenzo Pancino. Une autre question. Qui a dit « Si quelque chose ne marche pas, on essaiera autre chose jusqu'à ce que ça marche. » C'est pas Jérôme Bonaldi.
Oh, c'est ça. Obama.
C'est Barack Obama. Bonne réponse de Christine, bravo.
Ah, c'est bien, c'est rassurant.
Quoi?
Non, c'est rassurant, c'est bien.
Non, c'est, bah, écoute, ça a le mérite de, d'être
d'enfoncer
clair.
Une porte ouverte.
Bah oui, non, bah non. Oh, c'est que lui, il va aller très vite. Soit... C'est comme les stratégies de TF1. C'est-à-dire, ils mettent un programme, ça marche pas, ils changent. Ils mettent un programme, ça marche pas, ils changent.
Ah, je sais pas. Et si bah, t'as lui... vu France 2, ils font pareil aussi en ce moment.
Ah bah non, France 2.
Ils attendent deux mois.
Ah non, France 2, oui, ils attendent. Mais voilà, ça, je trouve ça vachement bien.
Une tout démarche de bon sens, dit-il. Si quelque chose ne marche pas, on essaiera autre chose jusqu'à ce que ça marche. Comment ça se dit en américain, ça?
Alors, je sais pas. Du tout.
Ah bah voilà, alors vous vous moquez de moi.
Ah non, 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 bah attends. Non,
si quelque chose ne marche pas...
If something...
If something
doesn't work, something doesn't work, we try something else.
Voilà. C'est parfait. Avec l'accent, c'est pas...
Vous devriez essayer une autre langue, parce que ça marche pas.
If something doesn't work, we try something else.
En tout cas, il a rencontré McCain, hein, hier. Alors, ça, c'est quand même assez rare. Voilà, c'est une démarche assez originale, puisque hier, donc, le vainqueur de l'élection a rencontré son adversaire à Chicago. Un geste sans précédent, paraît-il, dans l'histoire politique récent.
Il y avait les caméras, ils ont fait une déclaration.
Il y a les photos, en tout cas.
Bah, Sarkozy a rencontré Ségolène après l'élection.
C'est vrai.
Pour lui montrer sa montre, seulement. Mais,
mais
c'était.
Non, mais il n'y avait pas les télévisions, il n'y avait pas le, c'était non. En privé.
C'est vrai.
Tandis que là, ils se sont vus, moi je l'ai vu, je l'ai vu à la télévision. Je trouve ce McCain absolument formidable.
Avec ses petits bras.
Je trouve ce McCain formidable, il est gentil, il a été, bon, l'autre, c'est un coup publicitaire, évidemment, qu'il fallait mettre une minorité visible et tout ça. Mais l'autre est mieux.
il va fermer Guantanamo, c'est pas mal quand même.
Bah, dis donc, il est temps. C'est pas mal. C'est que c'est la honte de la démocratie des États-Unis.
Non, ça marchait pas.
Soi-disant une démocratie. Il faut savoir que.
Comment ça marchait pas?
Ça marchait pas, les mecs avouaient rien.
Ouais. Fallait passer à autre chose. Il a raison. Non seulement c'est une mauvaise image, mais en plus c'est nul. Ils viennent d'en libérer. Les mecs, ils ont passé 6 ans en tôle. Hop, finalement, on n'a rien à vous reprocher.
Rien. Il y en a un seul qui a été jugé. Un seul.
Il y a encore 255
oui,
détenus.
Ils vivent comme des bêtes. Il faut savoir qu'ils vivent dans des cages éclairées 24 heures sur 24 et que la majorité de ces garçons-là n'ont rien à voir avec le terrorisme.
Ils n'ont même pas Canal+, rien du tout.
Qu'ils aient à voir ou pas, peu m'importe.
Oui, mais enfin,
c'est une des hontes. Tu as raison. Il faut pas rigoler avec tous les sujets. C'est une des hontes du monde actuel.
Et
justement, qu'ils soient terroristes ou pas, on n'a pas à traiter des êtres humains comme ça.
Vous avez tenté de parler américain, Pierre. Je vais tenter maintenant de parler espagnol.
Aïe, 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 aïe.
A ver.
Libertad o muerte.
Pardon? Libertad o muerte.
Non.
Ça se dégrade petit à petit. Attends.
C'est de pire en pire.
C'est de pire en pire.
Libertad.
O muerte.
Non mais
muerte.
Ben demain, on risque d'entendre à plusieurs reprises cette phrase. Pour quelle raison?
La liberté ou la mort.
Pour l'ETA. Est-ce que c'est lié au type de l'ETA là qui a été
mentionné? La phrase est en espagnol, mais elle n'a pas de rapport direct, en tout cas dans l'actualité, avec l'Espagne.
Avec la France. Avec...
C'est pas l'enfant de Rachida Dati?
Comment ça?
Bah, qui veut sortir, quoi, qui dit.
C'est moi qui dis comment ça, en plus.
Bah oui! Bah, Aznar!
Bon, alors, pourquoi demain risque-t-on d'entendre cette phrase?
Est-ce que ça a un rapport avec l'Amérique du Sud?
Oui!
Qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud? Ça n'a rien à voir avec le G20.
Non. Qu'est-ce que ça peut être, cette phrase, à votre avis? C'est une...
Un slogan. Une chanson.
C'est,
en cours,
c'est
une
la
chanson.
Publicité ou la mort?
Un titre.
Mieux qu'un slogan. Une... Mais c'est presque un slogan.
Une antienne.
Un slogan, c'est publicitaire. Je sais que vous êtes obsédé par la pub. Mais quand ça n'est pas publicitaire.
Une devise.
Une devise. Une devise. Bon. Bravo. Merci, oui. Fabrice.
La devise d'un pays.
Voilà.
Voilà. Lequel?
Le Pérou.
Alors, pas le Pérou.
L'Uruguay.
Et alors?
En rapport avec le match de foot de demain.
France-Uruguay. Voilà. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Oh non, il recommence pas à faire des menaces de mort quand même.
Ah non, voilà, il se trouve que demain, l'équipe de France affronte l'Uruguay au Stade de France. Je suis allé chercher évidemment la devise de l'Uruguay qui est Libertad o Muerte, la liberté ou la mort. Bon, il y a peu de chances quand même qu'il y ait autant de sifflets parce qu'il paraît qu'il y a une crainte là pour le Stade de France.
Bah, ça dépend
demain.
Qui va chanter, quoi. C'est toujours le même problème.
Ah oui.
C'est qui va chanter. Si c'est là,
si c'est Jairo.
Des sifflets, oui, pareil. Ça dépend.
Il y a peu de chanteurs uruguayens en même temps.
Il y en a assez peu, ouais. Ah,
oui. Ça se jouera à guichet fermé demain, près de 80 000 spectateurs. Je me disais, tiens, pourquoi tant de monde pour France-Uruguay qui est un match amical
hein, parce que c'est pas cher.
Ben, tout simplement, voilà, parce que le Stade de France, pour fêter ses 10 ans, a mis des places à 10 euros. Voilà pourquoi le stade sera bourré à craquer demain et qu'évidemment, Madame Bachelot et Monsieur Laporte font réunion sur réunion toute la journée aujourd'hui pour que ça se passe bien demain soir. Mais Monsieur Laporte a été clair, en cas de sifflet, il quittera la tribune comme tous les officiels.
Oh mon Dieu, seront oh, bah, c'est un geste fort.
Tu sais, c'est spontané en plus.
Oui.
En tout cas, vous la connaissiez pas, la devise de l'Uruguay, Christine.
Non.
Moi, je pensais que vous étiez une spécialiste.
Non, bah, pas de l'Uruguay, attends. Mais c'est toujours pareil. Quand t'as mis les pieds dans un pays de d'Amérique centrale, après, on fait de toi spécialiste de tout.
C'est immense, le continent
américain. C'est comme si tu disais, vous qui êtes spécialiste de l'Espagne, vous êtes spécialiste de l'Allemagne. Non.
Le président de l'Uruguay, c'est monsieur Tabaré Vasquez, pour votre culture personnelle.
Un mot pour vous dire que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu demain à 18h. Son invité sera Salvatore Adamo. Alors pour jouer par téléphone et gagner des cadeaux, laissez dès maintenant votre numéro de téléphone sur le répondeur de Laurent. C'est le 01 42 32 11 11. Je répète, 01 42 32 11 11. Mais tout de suite, si on va se gêner avec Laurent Ruquier.
Il doit fêter aujourd'hui et souffler sur sa 80e bougie.
Mickey !
Mickey ! Bonne réponse de Christine, bravo !
Et je le sais parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Bon anniversaire, mon amour.
Ah, parce qu'elle est née le même jour que Mickey.
Ouais, elle a 80 berges aussi.
Sans en fait un vieux pédophile. On a baisé des gosses, lui, avec ses parties. Avec ses parties à la con, là.
Mickey ?
Oh, c'est parc, là, c'est l'escroquerie en permanence.
Ah, quand même, Mickey qui est apparu en 1928, le 18 novembre, ouais. Précisément.
Un dessin
dans
animé.
Premier dessin animé qui s'appelait Steamboat Willie. Et alors, évidemment, il a beaucoup changé, hein, ouais. Depuis. On a là l'image du premier Mickey qui a remplacé un lapin, Oswald, le lapin chanceux qu'avait créé Walt Disney.
Il a été arrêté, lui.
Mais... C'est un lapin qui avait un fusil.
Non, c'est pas ça, c'est que Disney a perdu les droits au profit de son producteur. Il s'est fait escroquer, si bien qu'il pouvait plus dessiner Oswald le lapin, et il a remplacé le lapin par une souris qui est devenue encore plus célèbre. C'est toute l'histoire de Mickey Mouse, la célèbre souris apparue pour la première fois à l'écran, donc il y a 80 ans.
On rappelle à tous nos amis intégrés, qu'il y a toujours une fatwa sur Mickey qui a été lancée par un imam.
Moi, je croyais que la plus vieille souris, c'était Lynn Renault, bah non. C'est Mickey, vous voyez.
Est-ce que Minnie est arrivée en même temps ou pas?
Ah, Minnie est arrivée un peu plus tard.
Un peu plus tard, vraiment.
Il y avait des personnages qui ont disparu depuis.
Elle a trompé en plus Mickey avec Dingo, croyez-moi.
Ça, c'est dégueulasse.
Attention,
c'est la zoophilie, ça.
Ou plutôt avec Goofy.
Pas du tout, le seul.
C'est le même. Pas le chien avec Goofy, elle a plutôt trompé.
Dingo et Goofy, c'est le même.
C'est le même.
Ah oui, c'est Marie Clarabelle. Goofy et Dingo, c'est le même.
C'est le même, ouais. Il y en a en France.
Et Clarabelle, alors, c'est qui Clarabelle?
C'est la vache.
Je croyais que c'était la femme de Dingo.
C'est un exemple, ça, pour les enfants, des chiens qui se tapent des vaches, des choses comme ça. Après, tu t'étonnes qu'à la
fin. Après, tu leur diras de pas coucher avec leur cousin.
C'est ça.
Dimanche soir, lors du match Lyon-Bordeaux.
Ah, la joie.
Oui.
C'est à la fin du match que Laurent Paganelli, qui est un des reporters...
Oh, formidable, qui a été un très bon joueur.
Voilà, un des reporters de Canal+, Laurent Paganelli, a interrogé quelqu'un qui a été, je dois dire, prépondérant dans le premier but lyonnais. Qui, Laurent Paganelli a-t-il interrogé à la fin du match qui fut si prépondérant pour le premier
c'est
but
un joueur
lyonnais? C'est pas un joueur.
Oui. Un arbitre. Il était sur la touche.
Un arbitre. C'est pas un arbitre. Sur la touche.
Sur la touche. Dans les tribunes ou sur la touche? Sur la pelouse, à juste à côté, une sorte d'entraîneur plutôt qu'un mec du public.
Non, pas un entraîneur.
Non, c'est un spectateur.
Pas un spectateur.
Alors, un artiste.
Non.
Alors c'est Benzema qui a marqué le premier
exact.
But.
Exact.
C'est un joueur de l'équipe adverse qui a dévié sans.
Non, c'est pas un joueur.
On cherche un lien avec Benzema ou pas?
Ah oui, alors non, un lien direct. Non, mais c'est sur le premier but de Benzema. Est-ce que vous l'avez vu ce but?
Non. Comment il l'a marqué ce but?
Ah bah si je vous le dis.
Ah oui. C'était un coup franc.
Non, c'était pas un coup franc.
C'était avec la main, celui qui a mis la main.
Non. Mais non, c'est pas un joueur. Je vois pas quelqu'un rentrer sur le terrain pour mettre un but de la main.
Il a appelé un physicien.
Ce qu'il s'appelait un physicien.
Un physicien pour expliquer comment est-ce que alors
c'est
que
grâce au vent.
Mais non, mais c'est l'effet torus. Enfin, la balle, elle est le gardien est devant toi, tu tapes et la balle, elle fait comme un arc de cercle. Joup.
Non mais c'est pas quelqu'un qui aurait été prépondérant dans le but, ça. C'est quelqu'un qui l'aurait expliqué après, mais pas pendant. Je vois mal un joueur sortir du terrain, aller voir un physicien, non. Puis lui demander comment il faut qu'il fasse pour tirer dans le but. Vous êtes con, Bonaldi.
Bonaldi, c'est pas qu'il est con, mais tu vas pas nous plomber toutes les émissions.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a renvoyé la balle sur le terrain?
En quelque sorte,
voilà.
Oui.
La balle est sortie, le mec lui a renvoyé avec le pied ou la main ou je sais pas
mais
quoi.
Mais non, t'arrêtes le jeu dans ces cas-là.
Alors, vous avez la réponse.
Non, mais ça s'est fait sur une touche, il me semble.
Bah alors, donc,
une touche très rapide.
Ah, le ramasseur de balles.
Le ramasseur de balles. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon est sorti et le ramasseur de balles a été, mais particulièrement rapide, comme jamais on a quasiment vu sur un terrain, si bien que les Bordelais n'ont pas eu le temps de dire ouf. Le joueur lyonnais, dont j'ai oublié le nom, qui a fait la touche, on lui a redonné le ballon tout de suite et il l'a envoyé à Benzema qui est allé marquer. Les Bordelais ont été surpris par la rapidité de la remise en jeu du ballon grâce à un petit ramasseur de balles qui était au bon endroit au bon moment et qui a redonné le ballon tout de suite.
Et alors ça, c'est, comme dirait Bonaldi, ça se plaide ça.
C'est-à-dire?
Eh ben, ça, tu peux dire, ce ramasseur de balles qui était à ce point véloce lorsqu'il s'est agi de favoriser l'équipe de Lyon, eh bien, c'est assez suspect.
Ah non, ça fait partie du jeu.
Il joue à domicile.
Giroud, d'ailleurs, à Auxerre, quand il était entraîneur, disait combien il était important d'avoir de bons petits ramasseurs de balles. Et puis, quand on est dans un autre club, c'est les ramasseurs de balles de notre club à l'extérieur qui ramassent les balles. Ça, voilà, c'est chacun son tour. Et puis, c'est pas tricherie, simplement. Voilà, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Et lui, il a été particulièrement rapide.
Sauf que quand c'est l'équipe qui visite, qui par exemple est mené au score,
évidemment,
le ramasseur de balles va prendre tout son temps pour remener la balle.
Est-ce qu'on peut dire que le ramasseur de balles, quand il temporise volontairement,
pour garder
l'avantage de son équipe préférée, à ce moment-là, on peut dire ce petit salaud mériterait.
Mais
de
ça se fait pas parce que ils savent très bien qu'ils seraient sanctionnés par l'arbitre. Auquel cas, l'arbitre sanctionne le club si les ramasseurs de balles ne sont pas assez rapides.
Rappelez-vous de la finale en 83. Noah Vilander, dès que Noah a mené d'un set, le ramasseur de balles prenait tout son temps pour redonner les balles à Vilander ensuite.
C'est vrai?
Et c'est pour ça que Noah a gagné.
C'est vrai? Bien sûr, t'inventes là.
Évidemment, j'invente puisque le tennis, on s'en fout du temps qu'on met. T'es con, toi, ou quoi?
Non, en revanche, ce qui a changé depuis quelques années, souvenez-vous, c'est que moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand je regardais les matchs de foot, il n'y avait qu'un ballon. C'est-à-dire que c'était le même ballon qui servait
bien
du
sûr,
début
on attendait le ballon
à la fin du match. Pourquoi c'est plus rapide aujourd'hui? Mais non, les petits ramasseurs de balles ont d'autres ballons.
On dirait un titre de nouvelle, le petit ramasseur de balles. On dirait un roman, c'est formidable, non?
Putain. Non, c'est vrai, vous pouvez me raconter l'histoire du petit ramasseur de balles?
Ben, il était très gentil, le petit ramasseur de balles. Il avait commencé par être minuscule ramasseur de balles, puis peu à peu, il avait fait un peu au ping-pong, d'abord de toutes petites balles, puis il avait fait au golf des balles un peu plus grosses, puis après ça, il était passé directement au handball, où les balles sont encore un peu plus grosses, et on l'a essayé au volleyball, ça a pas marché du tout. On l'a mis au foot, c'était pas du tout ça. Puis au basket, avec ses grandes balles qui portaient comme Atlas porte le monde. Il les portait au-dessus de lui et il est mort. Il est mort, le petit ramasseur de balles.
C'est un joli conte.
Le petit ramasseur de balles est mort écrasé par un smash d'un basketteur noir américain.
On va rester dans le sport puisque les Français viennent d'humilier les Thaïlandais 13-0 en finale des championnats du monde. Dans quel sport ?
Pétanque.
Pétanque. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Les championnats du monde se déroulaient pour la première fois en Afrique subsaharienne, au Sénégal, et nos boulistes bleus, l'équipe de France de pétanque, vient de décrocher son 8e titre consécutif en battant quand même en finale les Thaïlandais 13-0. J'ai au téléphone Philippe Suchot, qui est un membre de l'équipe de France de pétanque. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment se fait-il que les Thaïlandais se soient retrouvés en finale pour perdre 13-0?
Bah, les Thaïlandais, c'est une très très bonne équipe, et tous les ans, ils sont dans le dernier carré, et bon, ils ont craqué. Puis
mais de voilà. La faire Fanny quand même, c'est pas mal.
Ouais, ouais, on a bien démarré surtout. Après, ils ont pris la pression.
Et... ça veut dire que les Français sont au-dessus du lot, alors.
Ça fait quelques années quand même qu'on est au-dessus du lot, ouais.
Il y a une vraie culture de la boule en Thaïlande.
Oh non, c'est plus le petit cochonnet là-bas.
Oui, oui, c'est vrai.
Autant dire donc quand même qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. On était sûr que les Français allaient gagner la finale.
Non, on n'est jamais sûr. Mais bon, c'est vrai que la Thaïlande... c'est souvent qu'on la bat quand même. Hein. Ils nous ont rarement battus.
Il y avait 59 pays qui participaient à ce championnat du monde de pétanque. J'imaginais pas qu'il y avait autant de pays dans le monde qui jouaient à la pétanque.
Mais moi, qui ai fait partie, excusez-moi monsieur, moi qui ai joué au mondial de la pétanque à Marseille, qui représentait mon équipe d'ailleurs, avec un camarade qui est pas venu, il y avait 77 pays, je crois.
Et 14 nations africaines. Il paraît qu'il y a 100 000 licenciés dans la Fédération africaine de sport de boules. Je sais pas que les Africains jouaient à la pétanque autant.
Et ils jouent très bien, il y a des très bons tireurs, et il a même battu le record de tir, le Sénégalais. C'est lui le détenteur maintenant, il a battu Philippe Quintet, il a fait 64 points.
Dans l'IB, ils disent que c'est le Marocain Abdel El Mankari qui a décroché l'or devant le Sénégalais qui avait battu le record du monde.
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est quoi là ? Il s'agit de tirer le plus loin ? Il s'agit de tirer plus de boules ?
Non, c'est des ateliers, il y a une boule seule, il y a une boule derrière le cochonnet, il y a une boule entre deux boules, il y a une boule derrière une autre boule.
C'est des figures imposées, quoi.
Voilà, il y a 5 ateliers à 6, 7, 8, 9 mètres à tirer. Voilà, il y a 20 boules à tirer pour faire un maximum de points.
Ça m'étonne qu'il ait perdu parce que le meilleur, c'est quand même le tirailleur sénégalais, quand même. C'est bien connu.
Mais quand vous jouez en triplette?
Oui.
Vous êtes à 3 et 2 boules chacun, c'est ça?
Voilà, exactement.
Alors, ce que j'aime, c'est la fin de l'article de Libération qui nous précise que, d'après le médecin de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal qui organisait la manifestation, les tests antidopage et les 38 contrôles d'alcoolémie n'ont révélé aucune infraction.
On fait dopage et alcool, hein.
Je savais pas qu'il y avait des contrôles d'alcoolémie.
Depuis cette année que ça a été instauré, ouais.
Bah enfin, c'est idiot parce que si le joueur est bourré, il va moins bien jouer normalement. Non
oui, mais il y en a, ça, c'est le contraire. Il y en a que ça fait très très bien jouer parce qu'ils ont plus de pression.
Et oui, c'est un
contrôle anti-pastis alors.
Ouais. Voilà, exactement.
C'est incroyable.
Pour faire plaisir à Christine, les Mexicains, ils sont pas mauvais en pétanque, hein. Monsieur Suchard.
Les Mexicains, ils vont créer, je crois, un club là. Donc pour l'instant, on connaît pas, on n'a jamais joué encore.
C'est quand même marrant que Jérôme Bonaldi arrive à glisser de la publicité et des marques partout parce que Monsieur s'appelle Suchot et pas Suchard.
Pardon.
C'est quand même ça, je dois dire. Alors, il est
c'est
quand même
pour ça qu'il répondait pas.
Il est quand même balèze, ce Bonaldi. Un nom de marque par minute. Hein. C'est pas compliqué.
C'est quoi vos boules? C'est des au but.
Il touche. Hein.
C'est vous qui allez au but.
Je vous jure,
avec vos boules, Bonaldi. Allez, on applaudit l'équipe de France de pétanque, représentée dans notre émission cet après-midi par Philippe Suchot. C'est quand même incroyable, Bonaldi.
Je suis désolé.
Vous êtes obsédé par les marques.
Au revoir, William Sorin.
Ce qui était rigolo, c'est quand on était gamin, ça existe toujours, c'est les boules en plastique avec de l'eau à l'intérieur.
C'était pour le sable. C'était des boules pour jouer sur le sable.
Ah bah moi je joue en bas de mon immeuble.
Avec tes boules d'eau.
J'habitais pas à Paris plage.
Bien sûr. Bah t'habitais au Havre, il y a pas la mer.
J'habitais la mer. Oui, j'étais sur la plage au Havre même. Tu vois l'immeuble au milieu de la plage, tu vois, c'est le mien. Non mais enfin,
arrête tes conneries, t'habitais au bord de la mer.
Mais non, il fallait une demi-heure avant d'aller. Le Havre, il n'y a pas que le bord de mer, enfin voyons.
Bref. J'imagine le petit Bosco avec ses petites boules. Tu la connais, Pierrot, le petit Bosco. Chante-nous le petit Bosco. Je te jure, c'est mon Lolo petit.
Mais enfin, écoutez, tout le monde
dans
a eu
dans ses grands yeux, tout en prêt.
Tristesse.
Non.
Envoyez vos dons. Vous pouvez faire un chèque à l'attention de Laurent.
J'étais pas malheureux avec mes boules en plastique.
Si.
Tous les enfants ont eu des boules en plastique avec de l'eau à l'intérieur.
Enfin, grand-père est mort de la coqueluche, le laissant seul avec ses 5. Enfin.
Enfin, écoutez.
Les boules en plastique, on appelle ça des sextoys maintenant.
On voit passer des larmes de chagrin.
Et à quel moment tu t'as... Michalak, vous avez bien eu des boules en plastique quand vous mettez le préservatif juste au fond.
Bah, faut bien qu'il tienne. Hein.
Vous avez eu des enfances heureuses.
Là, vous n'avez pas eu de boules en plastique, vous, du tout.
En Afrique, je joue avec des cailloux, moi.
Tu sais, le mec, il a grandi à Vincennes. Ouais. Ouais.
Attends, le mec, il est fils de gynécologue, tu vois. Non, mais maintenant, il veut être une caïra d'Afrique. Non, mais arrête, assume.
Pourquoi les gens qui grandissent en Afrique sont des caïras? Bravo, Christine, bravo.
Oh là là, ah, les clichés.
Enfin, c'est vrai, faut arrêter, vous n'êtes pas plus africain que moi, Fabrice Eboué.
C'est pour faire un mot.
C'est vrai que physiquement, si tu veux, t'es un peu roukmout. Excuse-moi, Lolo. Oui, il fait un peu plus africain.
Je suis roukmout. Moi, je suis roukmout.
Ah oui, t'es un vrai roukmout. Oui.
Non, il n'y a plus de roux en France. Si. On les a tous tués à l'école, tu sais très bien.
Elle l'a attaqué sur son physique. Elle va enfin perdre sa place.
Elle ne m'attaque pas sur mon physique. Enfin, roukmout, c'est roux. Je ne suis pas roux.
Du tout, pas roux.
Bonaldi, c'est quoi les meilleurs macs de boules?
C'est là au but.
Ouais. Et alors là au but, c'est pas la meilleure.
Si si, elle est bonne, elle est très bonne. Elle est fabriquée à l'ancienne. Tu sais, tu prends deux coques d'acier.
Mais il y a d'autres marques.
Oui.
Fabriquée à l'ancienne. On a l'impression, tu sais, Pierre Hermé, le macaron, le pâtissier, oui. Fabriqué, alors tu prends deux coques de machin, mais qu'est-ce que t'en sais?
Comment je suis fabriqué de la boule de pétanque. Mais tu prends une grosse masse d'acier.
Ça c'est sûr que tu prends pas du liège, oui, d'accord.
Et après tu le tamponnes, ça fait une sorte de demi-coque.
Je vais vous dire.
Ces deux demi-coques et tu les coques.
Pardon de vous dire, mais pourquoi je préférais mes boules en plastique remplies d'eau? D'abord parce qu'elles étaient de couleurs différentes. Et on les repère beaucoup mieux que ce système à la con de, j'ai jamais réussi à récupérer mes boules par rapport aux boules des autres. Non mais c'est vrai.
Bon, franchement, ouais, mais ensuite tu fais les partout idiots.
Franchement, il y a pas un moyen d'identifier mieux les boules que deux ou trois stries.
Il faudrait
que toutes les boules soient pas de la même forme, peut-être.
Mais oui,
c'est ça. Quand on forme de pyramide.
Non, mais vous n'êtes pas d'accord. Il y a raison. Vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Je suis absolument. C'est pas que j'arrive pas à récupérer mes boules. C'est que je suis admiratif et envieux quand je vois les mecs qui sont là à trois équipes différentes. Donc il y a à peu près 12 boules et que chacun arrive à trouver la sienne. Moi, je ne saurais même pas.
Non, mais c'est exactement ce que je disais.
Mais t'as qu'à acheter des boules en acier doux, des boules à crampons.
Mais ce serait pas mieux de les mettre rouge et bleu, sérieusement.
Bah oui. le meilleur moment, c'est quand on va chercher un petit bout de bois pour savoir combien il y a de centimètres ça c'est chouette.
C'est toi qui tiens. Ah, c'est ouais.
Moi, plus de 20 centimètres, je suis avec ma bite, toujours comme ça.
Bon, allez. C'est pas un petit bout de bois, c'est le fond d'arbre.
On se retrouve après le flash de 17h.
Laurent Ruquier.
On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Jérôme Bonaldi, Pierre Ménichoux, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Et deux auditeurs, ce serait bien qu'on ait des gagnants là, parce que quand même, ça fait un petit moment qu'on a notre filet qui se garnit de plus en plus de cadeaux, de places, de spectacles, de livres, de disques, enfin bon, bref, Geneviève de Pont-Saint-Esprit, j'espère que vous allez remporter ce filet garni, vous ou Jérôme, qui lui est dans le Nord. Alors d'abord Geneviève, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez depuis le Gard, c'est bien ça, Pont-Saint-Esprit?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Je suis assistante maternelle.
Assistante maternelle.
Bien. Nounou.
Bien joli métier. Il vous faut donc 200 bodies.
Voilà.
Est-ce que vous avez un petit message à faire passer soit à l'équipe ou à vos amis, votre famille qui vous écoute?
À mes enfants, Antoine, Sophie et Lucie. Je leur fais un grand bonjour. Je vous aime tous. Vous êtes tous très sympas.
C'est gentil ça, Geneviève. Et vous, Jérôme, vous habitez MHEM dans le Nord. C'est bien ça?
Tout à fait, oui. C'est à côté de Lille.
À côté de Lille. C'est vous qui allez nous conseiller sur le restaurant lillois dans lequel on doit aller le 5 décembre prochain, alors.
Bah, pourquoi pas.
Il y a un bon resto, alors?
Dans le Vieux-Lille, il y en a pas mal, oui. Il y a la cave aux fioles.
La cave aux fioles.
Monsieur, respect pour le patron.
Ce n'est pas du tout notre genre de restaurant, monsieur.
La cave aux fioles.
Sinon, il y a le Aubry, on mange du couscous royal là-bas.
On ira d'ailleurs applaudir Grégorio qui passe, comment s'appelle la grande salle, le Métropole, c'est
ah,
ça?
Je suis jamais allé.
Sébastopol, voilà, ah, ouais. Sébastopol, le vendredi 5 décembre au soir.
Ouais.
Jérôme, un petit message à faire passer, et quel métier faites-vous?
Moi je suis délégué médical.
Délégué médical,
voilà, c'est... Voilà, je vais voir tous les médecins, et puis je discute le coup avec eux, puis je leur parle accessoirement de médicaments.
C'est
voilà,
ça, vous leur vendez ça, les médicaments, ouais, des laboratoires.
Tout à fait.
Un petit message à faire passer, Jérôme?
Bah oui, j'en profite justement pour passer un grand bonjour à tous mes collègues de la visite médicale.
Ouais.
Pour qui c'est pas forcément facile actuellement.
Alors attention, vous êtes prêts, Geneviève et Jérôme?
Oui.
J'espère que vous allez remporter Sophie Légarny. Voici la question du jour. Roxy est 12e grâce à Samantha Davis. Mais 12e dans quoi? Roxy est 12e grâce à Samantha Davis. Mais 12e dans quoi?
Alors, Roxy, c'est une chanson?
Non.
C'est de la musique, là, on parle de musique ou pas?
Pas du tout.
C'est un sport?
Dans le sport?
C'est du sport.
C'est du tennis.
Non, c'est pas du tennis.
Alors, moi, le sport.
C'est un sport d'équipe?
Pas du tout.
C'est un cheval?
C'est pas un cheval, Roxy.
C'est un sport marginal ou c'est...
Marginal, on peut pas dire ça.
C'est un bateau?
C'est un bateau. Ah,
donc c'est, bah donc c'est Samantha Davis, elle est sur un bateau qui s'appelle le Roxy.
Ah oui, c'est la fille, c'est la
fille. Dans le Vendée Globe.
J'ai bien peur que Jérémy Michalak ait répondu bateau avant vous et qu'effectivement il ait ajouté tout de suite le Vendée Globe Challenge.
Ouf.
Je suis qu'est-ce qu'il y a?
Bah, les 200 body, elle les voyait partir déjà, donc fallait intervenir.
J'ai échappé à la faillite de Bravo Hollywood.
Vous aviez vos chances parce qu'il savait pas autour de la table. Et quand même, Samantha Davis, c'est une des deux seules femmes qui participe au Vendée Globe Challenge. Donc franchement, là, vous auriez pu gagner.
Mais Laurent,
hein,
le premier à avoir, avoir prononcé le mot Vendée, c'est quand même Jérôme. Hein.
Oui, mais une fois que Jérémy Michalak avait dit bateau, alors, tu vois...
En tout cas...
Mais je ne l'ai pas entendu. Hein.
moi, je serais auditeur, moi, je dirais que c'est honteux, ce jeu. Parce que on est là, ils ne savent pas si on triche ou pas. Je pense qu'on ne triche pas. Mais on ne leur donne jamais rien. Ou alors, il faut leur promettre non pas un panier garni avec une place pour aller
pourquoi
voir...
Pourquoi on met en jeu? Vous êtes con ou quoi?
Pour aller voir Fernand Reynaud. Non, il faut leur promettre...
Qu'est-ce qu'il dit?
Puisque jamais, puisqu'on ne peut jamais, ils ne peuvent jamais gagner, autant leur promettre un hôtel. L'hôtel Georges V sera la propriété. Mais oui, au moins qu'il y ait quelque chose. Ils sont là pour avoir... trois places, ce machin, deux t-shirts et un paquet de cigarettes à moitié vide, à moitié plein. Et ils
mais
sont
justement,
là, les malheureux.
Quand ils perdent, ils sont moins
et
tristes.
Ils sont là, les malheureux, pour être marrons par ce con, là. Non, mais sérieusement. Mais moi, je suis un auditeur, moi, Michalak. On vient à quelques auditeurs, on t'attend en bas. Et d'un seul coup de pied au cul, on t'envoie jusqu'à RTL. Tira la valise, là-bas.
Ah voilà, Pierre Bénichou, avocat des auditeurs.
Oui,
tout de même, tout de même.
Et on fait quoi, Michalak, de tous ces cadeaux, alors?
Bien sûr, voilà, que c'est bien très bien. Voilà,
bah déjà, mes body, il les voilà, porte.
Alors, on est
moi, je suis fière de vous avoir parlé.
Mais nous aussi, Geneviève.
Moi aussi, mademoiselle.
Mais on ne te donnera rien, quand même.
Pas sur 10, sur 20.
Non, mais c'est pas grave.
Bien sûr, je suis
une photo dédicacée.
Ça fait 1/5.
Ah, vous voulez des photos dédicacées?
Bien sûr. Oui.
Ça. Voilà.
Alors, on va poser une question subsidiaire. Ce mec, il veut rien donner. Donnez un chiffre entre 1 et 1000.
Bah, c'est promis, on vous envoie une photo.
Vous êtes natif de Pont-Saint-Esprit?
Non, je suis charentaise.
Ah, moi aussi. Dites-moi, est-ce que vous êtes remis du pain maudit de Pont-Saint-Esprit?
Ah, mais moi, je suis née cette année-là.
C'est vrai?
Oui.
En 53, non?
Ouais.
Expliquez, là, parce que je suis pas bien tout à fait.
Ben, un jour, à Pont-Saint-Esprit, il y a eu une épidémie. Il y a eu 17 morts dans la nuit, je crois, un truc comme ça, et on s'est demandé ce qui était arrivé, c'était un empoisonnement par
de la farine.
Par les farines du seigle, je sais pas, des épis de seigle.
C'était du germe de seigle, c'était
qui était un germe maudit, enfin, je veux dire, qui a tué, comme ça.
Mais c'est
et qui a tué, je sais pas combien de personnes, vous en souvenez, non?
Non, j'ai le livre, mais je
non, il y a eu une vingtaine de morts.
Mais c'était
un truc, c'était en plein été, ça avait fait un truc, c'était autant que le barrage de Fréjus.
Dans si quelle année c'était, ça, Geneviève?
En 1952.
Ah, bah oui.
C'était
voilà.
L'ergot de seigle, c'était le diéthylamide.
Seigle, absolument.
Diéthylamide de l'acide lysergique.
Il s'est rien passé à M, Jérôme.
Ce type qui avait été renversé par un vélo, rappelle-toi.
Sérieusement. L'ergot de seigle en question. Attends, juste.
On s'en fout.
Petit truc d'histoire.
Non, c'est vrai.
Ça s'appelle le diéthylamide de l'acide lysergique.
Ah ouais,
en allemand, ça se dit lysergique zahur diéthylamide, qui en abrégé se dit LSD. Ils ont tous morts d'une overdose de LSD. Ah,
ça c'est intéressant.
Voilà.
Là, ça c'est intéressant.
Tu vois, tu vois,
pour les migraines, pour les traitements anti-migraines.
Non, l'autre qui va tu vas vendre de l'aspirine. Tu sais, pour foncer au LSD, vas-y, prends un Doliprane.
Allez, on vous embrasse, Jérôme et Geneviève. Merci.
Merci.
Vous aimez Laurent Baffy? Alors sachez que le prochain enregistrement de l'émission aura lieu demain à 18h. Son invité sera Salvatore Adamo. Alors pour jouer par téléphone et gagner des cadeaux évidemment, laissez dès maintenant votre numéro à vous de téléphone sur le répondeur de Laurent. 01 42 32 11 11, je répète, 01 42 32 11 11. Mais tout de suite, vous le savez, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier.
Tout à l'heure, vous vouliez un slogan, alors qu'on parlait de devises, cher Jérôme Bonaldi. Ben, en voici un slogan, c'est « Quand on est pour, on vote pour ». C'est le slogan de quoi ?
Quand on est pour, on vote pour.
Quand on est pour, on vote pour.
C'est en rapport avec les socialistes encore ?
Pas du tout.
C'est un produit alimentaire ?
Non, puisqu'aux socialistes, enfin au PS, on vote plutôt contre en ce moment. Hein.
Contre tout. C'est de l'alimentaire ?
C'est pas alimentaire du tout. Quand on est pour, on vote pour.
C'est de la politique ?
Politique, pas tout à fait.
L'environnement ?
Pas du tout, même, je devrais dire. Ah, mais c'est... bon, il y a toujours un brin de politique qui s'en mêle.
Mais c'est dans une publicité qu'on peut voir à la télévision ?
Ouais, en ce moment, en tout cas, il y a une campagne.
Anti-tabac, pas c'est anti-tabac. Anti-alcool,
non,
anti...
Non, non. Ah, bah, j'étais sûr que la réponse allait fuser, parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois à la télé, ce slogan.
Préservatif ?
Non, quand on est pour, on vote pour.
Un message gouvernemental
ou gouvernemental.
C'est pour... Écolo.
C'est pas pour une marque.
Non, c'est pas pour une marque.
Ah, l'environnement,
c'est pour l'environnement. Les prud'hommes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bah alors ça quand même, Pierre, vous saviez pas que c'était les élections prud'homales, là ?
Non, mais quand on est pour, on vote pour, je vois pas ce que ça veut dire.
Ce qui se passe, c'est que les Français sont majoritairement pour cette idée d'être défendue par le Conseil des prud'hommes et trouvent que ça a une énorme utilité, c'est alors quelque chose... Et ils ne se déplacent pas suffisamment pour aller voter, voilà pourquoi le slogan veut dire « quand on est pour, on vote pour ».
C'est nul.
Comment ça s'appelle?
Enfin, quand on est contre, on est contre, ou quand on est pour le lait, on vote pour le lait, quand on est pour les vaches, enfin, c'est n'importe quoi. Ça...
Non, mais il n'y a plus que 33%.
Il faut expliquer, vous rendez compte.
33% de participation, au prud'homme, alors que.
Avec des slogans comme ça, ça
va pas augmenter. 63%, il y a ça quelques dizaines d'années.
Quand le Parti Socialiste allait bien, effectivement.
3 salariés sur 10 se déplacent seulement pour aller voter. Ce sera le 3 décembre, prochain. Alors concrètement, les électeurs sont invités à participer au scrutin dans des bureaux de vote qui sont généralement à proximité des lieux de travail, dans des sortes de
dans les endroits où on ne va jamais, dans un tribunal d'instance, vous savez où il est à côté de chez vous.
Non, mais il y a aussi des mobilhomes, des choses comme ça qui sont installées.
Oui, il y en a 2 ou 7 peut-être pour tout, 15 pardon pour toute la France. Oui, à part ça, non, c'est nul.
Alors justement, devant les prud'hommes, Jérémy Assous a réussi à réunir 26 personnes qui ont un point commun. Quel point commun ont ces 26 personnes ?
Ils ont été licenciés par la même personne, le même employeur ?
Non.
Ils s'appellent tous Jérémy ?
Non.
Jérémy, devant les prud'hommes.
Maître Jérémy Assous défend 26 personnes qui ont...
Ah, ils sont tous avocats ?
Toutes, non.
26 salariés,
Ils peuvent plus travailler parce qu'on leur a retiré le permis de conduire.
Non.
Mais ils ont tous été licenciés pour une cause abusive ?
Ils n'ont pas été licenciés.
Ah. Mais c'est au prud'homme quand même.
Ils n'ont pas été augmentés.
Non.
Ils ont été un
peu
brimés.
Non.
Ils n'ont pas été payés.
Ils n'ont pas été payés.
Ah, ils n'ont pas été payés depuis très longtemps. Parce que leur employeur, c'était l'État. C'était la ville de Paris.
Non.
Ils viennent de la même société, ces gens-là?
Non.
Koh-Lanta.
C'est-à-dire?
La télé-réalité.
Ce sont donc les 26.
Ce sont les 26 candidats de la télé-réalité qui réclament un salaire.
Et de l'île de la Tentation particulièrement.
Oui, voilà.
Bonne réponse de Christine, bravo. Maître,
quel est le point juridique?
Maître Jérémy Assous s'est fait une spécialité, défendre les candidats de la télé-réalité qui ne sont pas payés par les différentes sociétés de production et qui disent, après tout, c'est du boulot qu'on nous demande parce qu'on joue la comédie. Ce à quoi, évidemment, répondent les producteurs. Franchement, on nous réclame 25 ans de SMIC pour 12 jours au soleil. Faut pas déconner non plus.
Non. Faut pas voir les choses comme ça.
Ah.
C'est 12 Maître jours bravo. Au soleil avec des caméras en permanence et avec, vous allez refaire, la réponse à cette question que je viens de vous poser.
cette réplique ne nous convient pas. Ce comportement ne nous convient pas.
Je suis c'est ce que dit l'avocat. Il dit c'est de la fiction scénarisée.
Absolument.
Bah alors ça veut dire que Ingrid Betancourt doit toucher un pactole parce que elle a fait ça pendant 6 ans. Elle lui a dit tu fais pas ça, tu fais ça comme ça. C'est ce qu'elle a fait pendant 6 ans. Elle va toucher de l'argent, disons.
Écoutez, pourquoi les sociétés de production gagneraient beaucoup d'argent avec l'image de Gaillard qui, eux, ne recevraient pas un centime.
Vous vous rendez compte, pour les sociétés de prod, c'est une catastrophe parce que l'avocat réclame 400 000 euros pour chacun des candidats.
Mais parce qu'ils sont cons, ils avaient qu'à les payer avant. Ils avaient qu'à leur dire, on vous emmène 12 jours au soleil et vous allez gagner par jour 150 euros. Les gars, une fois qu'ils auraient eu signé, ils ne pouvaient plus rien faire. Et ils étaient rémunérés à peu de frais.
C'est-à-dire que Andemann n'a pas fait ça, ils sont très
cons. Non, ils sont très cons.
Ils sont très cons, ouais.
Et maintenant, les autres demandent des dommages et
intérêts. Alors, d'autant que l'avocat a un argument supplémentaire qui lui vient du fisc, puisque il se trouve que parmi les candidats, il y en a un qui s'appelle Sébastien, qui a gagné les colocataires que vous, d'ailleurs, que vous co-animiez, cher Jérémy, en 2005.
Quelle carrière de merde pour toi.
Non, c'est 2005, c'est pas plus vieux que ça.
2005, sur M6 avec Fred Courtadon, vous animiez.
Ah, c'était toi.
Cette émission.
Je savais bien que je t'avais vu quelque part.
Con, ouais.
T'as déjà 3 ou 4 ans d'ancienneté et tout. Enfin, moi je mettais ton inaptitude sur le compte de la sur le compte de la nouveauté, de la jeunesse. Quoi, t'es un vieux cheval de retour en plus.
Ça fait 10 ans.
Pourquoi d'un seul coup l'avocat a un argument très fort, c'est que le trésor public réclame au vainqueur des colocataires un redressement fiscal sur ses gains au motif que le programme tient plus de la fiction scénarisée que du jeu. Et que la somme qu'il a gagnée doit être soumise à l'impôt sur le revenu. Donc, alors, à partir de là, il dit, si je dois payer de l'impôt sur le revenu sur la somme que j'ai gagnée, c'est du travail.
Bien sûr.
Et faut me payer.
Absolument, c'est un bon argument. C'est quand tu es invité dans une émission de télévision. Si tu es invité en étant payé, tu es évidemment, tu es justiciable des prud'hommes, puisque tu es l'employé de quelqu'un. Si tu es invité sans être payé, si tu te casses la gueule là-bas, tu peux attaquer la firme qui t'a invité.
Enfin, le pauvre Sébastien, les colocataires, il prend 200, combien c'est? 200 000 euros, c'est ça?
200 000 euros.
Il gagne 200 000 euros, 3 ans après, on lui dit, ah bon, en fait, il fallait payer des impôts. Le mec, il a tout claqué parce qu'il pensait que c'était pas imposable. Bah oui. Et c'est lui, il se retrouve dans la merde avec ça.
Moi, au mariage de ma sœur, c'est moi qui ai fait le con toute la soirée, j'ai demandé à être payé après.
Ça, c'est normal.
C'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen. Et cette question, aujourd'hui, la grève est-elle encore le meilleur moyen de se faire entendre? Pour en parler notamment, Rémi Aufrère qui est secrétaire fédéral de la fédération FO Cheminots. Et vous réagissez évidemment au 01 42 32 14 14. Quant au débat d'Europe 1 Soir, il concernera la crise qui perdure au parti socialiste. Roland Kayrol, qui est le directeur général de l'Institut CSA, et Catherine Ney, que vous connaissez puisqu'elle est journaliste à Europe 1, seront là notamment pour en parler ensemble. Et avec vous, là encore, n'hésitez pas à donner votre avis au standard d'Europe 1, 01 42 32 14 14. Mais pour l'instant, on retrouve Laurent Ruquier avec On va se gêner.
Europe 1, On va se gêner.
Dorémy Fassi, Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Nous parlions tout à l'heure, c'était hors antenne je crois, mais nous parlions de Christophe Maé, imité par Gregorio hier soir dans la Starac, puisqu'il a été visiter les candidats de la Starac. Et Christophe Maé, avec sa nouvelle chanson « C'est ma terre », se fait encore épingler par vous, Serge Liado.
Oui, c'est pas méchamment. On appelle ça une ressemblance, il n'y a pas plus classique. C'est-à-dire, il a pris, Christophe Maé, une intro de guitare qui est dans une chanson de Goldman. Alors, la chanson de Christophe Maé s'intitule « C'est ma terre », elle date de 2007. La chanson de Jean-Jacques Goldman, qui s'intitule « Bonne idée », date d'il y a 10 ans, 1997.
On ne la connaît pas, cette chanson de Goldman, en plus.
Ah si, quand même.
Bonne idée.
Ouais, elle est chouette,
c'est ça. Vous allez reconnaître.
C'est chouette.
« C'est ma terre » et « Bonne idée », donc.
Voilà, donc même intro guitare. Alors évidemment, gros débat sur Internet entre les partisans de l'un et de l'autre. Et c'est vrai, à mon avis, j'ai quand même tâté un petit peu de la guitare. C'est le même riff. Et puis bon, c'est pas un plagiat. Tous les guitaristes progressent en empruntant un petit peu les plans de leurs aînés.
Et puis une bonne idée, c'est fait pour être utilisé deux fois.
Début de janvier, si j'ai bien su compter. Reste de fête, tout bien veut, très appuyé. De rue tout de moche, lequel a eu l'idée. Qu'importe, j'ai gagné la course. Et parmi des milliers,
on oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part.
ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart.
Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers. Une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés.
Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort.
Y avait du soleil, des parfums, de la pluie. Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit.
On abîmente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir.
Je suis dit, bonne idée.
Voilà, non, c'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois.
Les voix sont pas les mêmes, alors on voit pas bien la ressemblance, évidemment.
Non, les voix sont pas les mêmes, mais elles ont la même maladie, quand même, non?
C'est la même guitare.
Il faut être très bon orthophoniste pour les deux, quoi.
Les guitares.
C'est honteux. Encore le petit violet, là, c'est pas mal. Comment il s'est violet, c'est ça?
Non, Maël,
c'est bien.
Christophe.
Mais l'autre, la fausse gloire numéro un du monde, la Goldman. Oh, on déteste celui-là.
Mais ça va pas, la tête.
Quoi, c'est un génie,
c'est un grand musicien.
Goldman. Bien sûr, c'est un génie, Goldman.
Oui.
Franchement, non, on aime Goldman, Christine et moi.
Vraiment, si tout le monde aime Goldman, qui n'aime pas Goldman?
Franchement, quand la musique...
La chanson lui doit beaucoup.
Quand la musique est bonne, mais non, c'est pas quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne.
Avec cette air comme ça.
Elle met du vieux pain sur son balcon.
Et pour Rachida Dati, elle a fait un bébé toute seule.
Pas encore. Vous avez de l'avance.
Non, mais quand il veut monter la voix, il va faire un bébé toute seule.
Et pour Delanoé, je marche seul.
Ouais, et la chanson. Et la chanson sur les vieux croutons. Il suffira d'un signe. Vous préférez peut-être Serge Liadeau et sa chanson Flash, voilà.
Ah oui.
Et là, vous nous emmenez à Puteaux, Serge. Pourquoi Puteaux?
Parce qu'il y a, il y a eu un blogueur qui a insulté la députée maire Sekaldi Reynaud. Il a dit Madame Sekaldi Reynaud fait la pute. Elle se vend, elle offre des cadeaux aux électeurs pour être réélue en 2007.
C'est pas bien ça de dire
il
ça.
Elle a été déboutée. Elle a été déboutée, oui, c'est ça qui est curieux.
C'est-à-dire que lui a gagné son procès.
Oui, il a gagné son procès parce qu'ils ont porté plainte pour diffamation. Et alors, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas diffamation. En revanche, ils ont oublié de porter plainte pour injure. Et là, elle aurait pu gagner.
Tout ça en chanson.
Un petit blogueur de Puteaux sur Joël Sekaldi Reynaud avait tenu ses propos abrupts. La députée mère fait la pute. Outragée, blessée, atteinte, aussitôt elle porte plainte. Mais le tribunal relaxa cet internaute indélicat. Plût à Dieu qu'on ait à Puteaux traité pute la députée Puteaux. Certes, en saluant ses élus de communes aux noms ambigus, merde, merdouillou, merde ici. Merde lourde ou merde moisie, merde mon cul, merde orange, le colibet nous démange. Si comme dit le Père Noël ma mère, y a autant de mervers que de pervers, on peut être, il faut le supputer, en même temps député, député.
Très bien, merci Serge. Oh,
merci.
Ah, si je vous dis que devant Europe 1, on peut lire ce prix, 10 980 euros, de quoi s'agit-il?
Le salaire quotidien de Laurent Ruquier?
Non.
J'ai vu ça, c'est un coup un peu bizarre.
Ah.
C'est une entreprise sur Internet qui fait immobilier et qui a fait une pub partout à Paris. Ils ont tagué le sol en mettant devant chaque rue, enfin dans une vingtaine de rues, un graphe. Tu sais, un graffiti, quoi, avec une bombe de peinture en disant, ici, le mètre carré vaut tant, alors dans le
trottoir. Sur le trottoir, tagué sur le trottoir. Et effectivement, ici, à Europe 1, rue François 1er, apparemment, c'est 10 980 euros le mètre carré. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
C'est bizarre, hein, comme pub. Moi, je serais la mairie de Paris, ça m'embêterait un petit peu.
Alors, on va demander à Sébastien Delafont, que nous avons au téléphone, qui est le président de cette agence immobilière. C'est bien ça? Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
C'est meilleursagents.com, votre société.
C'est meilleursagents.com, oui.
Alors, expliquez, quel est le but de votre démarche?
Le but de la démarche, c'est de nous faire connaître. Je tiens à préciser que les marquages sont faits avec de la craie.
Oui.
De la craie sous pression. Ça va partir à la première pluie et on envoie une société de nettoyage. Demain et après-demain pour que l'ensemble des emplacements soient parfaitement nettoyés.
Ah bah ça c'est très intéressant, c'est tout ce qu'on voulait savoir.
Bah non mais c'est vrai.
Non mais c'est bien,
c'est important de le dire.
Oui.
C'est... En tout cas ce matin c'était encore bien évident devant
après la pluie,
devant Europe 1 après la pluie.
Ouais.
Mais alors, vous en avez mis combien comme ça dans Paris? Et est-ce que c'est vrai dans les autres villes de France aussi?
Non, on a fait ça qu'à Paris dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a plus d'une centaine d'emplacements que nous avons marqués.
Ah bah c'est un vrai coup de pub, formidable.
C'est malin. Est-ce que ça augmente le nombre de clics sur votre site?
Absolument, le trafic est en très forte croissance.
Non, mais moi, je voudrais savoir le prix du mètre carré. Reste,
chez fou, moi.
C'est pas vos cuisines internes qui ont l'air de passionner mes camarades.
Mais c'est juste ça.
Je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est d'où est-ce que vous avez pris que le mètre carré rue François 1er valait
10 000 euros.
10 000 euros et que quel est le
presque 11 000
quel est le prix de quel est le 11 000, quel est le prix le plus cher du mètre carré à Paris, quel est le moins cher, voilà. Comment vous avez fait pour avoir ça m'intéresse.
Bah, ça on le sait. Alors le quartier le plus cher, bah, c'est...
alors raccrochons parce que non, sincèrement,
le quartier le plus cher alors c'est lequel?
C'est ici,
c'est
pas le quartier le plus cher de Paris, c'est le 7e arrondissement.
Est-ce que c'est pas contre-productif finalement d'indiquer des prix qui sont exorbitants alors que vous êtes censé vendre dans le fond?
Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est de changer le rapport que les Parisiens ont avec l'immobilier. Et on veut apporter un éclairage nouveau, la vérité en matière de prix et la vérité sur la performance des agents immobiliers. Ou citer des quartiers ou des immeubles où le prix est très élevé, si on va dans le 19e, on va trouver des marques à moins de 5000 euros du mètre. Donc il y a une très grande diversité de prix dans Paris, vous le savez, et même dans une même rue, on va trouver des écarts de prix très très importants, parce qu'une des spécificités de Meilleurs Agents, c'est que si vous allez sur notre carte des prix, vous verrez dans une même rue un prix pour chaque immeuble résidentiel dans cette rue, et vous verrez des écarts de prix parfois de 10, 15, 20% d'un numéro à l'autre.
Vous faites que l'immobilier ou vous allez faire ça pour d'autres choses, par exemple au bois ou des...
Sur le sol, 15 euros la pipe, 30 euros la voix. Ouais.
Combien fait de mètres carrés notre studio, là, à peu près, à Europe 1, dans lequel nous travaillons?
80.
80 mètres carrés. 70 mètres carrés. Allez, 70. Alors, 70 par 11 000, puisque c'est 11 000 le mètre carré.
Vous êtes très précis.
7 700 000 francs.
Voilà.
Ça veut rien dire, mais les chiottes sont en commun, tu sais.
C'est vrai que les chiottes sont sur le panier.
Enfin, quand même, on vit deux heures par jour ici, dans un truc de cette...
Ouais.
Si, c'est pas mal.
Non, en plus, on a déjà la concierge chez Gratto. Saint-Daniel. Il n'y a pas de charge.
Allez, bon, merci, monsieur Delafont, et bravo pour ce coup de pub, parce que c'est avant tout un coup de pub, mais un coup de pub réussi.
Oui. Merci beaucoup à vous.
Jusqu'à 18h, profitez-en bien, c'est Laurent Ruquier.
La Direction Générale de la Concurrence précise que les heures d'arrivée et de départ ne sont pas prévues. Quelles heures d'arrivée et de départ?
Le train?
Non.
L'avion?
Oui, c'est les avions.
Non. La Direction Générale de la Concurrence précise que les heures d'arrivée et de départ ne sont pas prévues.
Alors, ce sont
c'est
des charters, salariés.
Des charters?
Non.
C'est pour des salariés.
Est-ce que c'est pour le transport?
Non.
C'est pour dans la grande distribution?
Non.
C'est pour des hommes?
Qu'est-ce que vous appelez?
L'arrivée d'un homme,
Oui, ou de femme, oui.
D'accord, c'est pas l'arrivée de la livraison d'une marchandise,
non.
Quelque chose comme ça.
C'est la Direction Générale de la Concurrence.
De la concurrence.
De la consommation et de la répression des fraudes.
La DGCCRF.
Voilà. Bravo,
Bonne. Ça s'appelle la DGCCRF.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est les douanes.
Non. Et vous allez voir, vous allez être très concerné par ce.
Qui plus?
Sur les inspecteurs.
Non. Non.
Qui va être plus
concerné? Non, parce qu'on tous, on se pose toujours la question, puis on se dit, ah là, c'est chiant.
La garde à vue?
Non.
Christine, on n'a pas tous fait de la garde à vue.
Non, la garde à vue, on ne va pas plus d'une fois par semaine, quand même.
Maximum.
Ça pour l'hôtellerie.
C'est-à-dire?
On doit quitter la chambre à midi et arriver à tout à l'heure.
Bonne réponse de Fabrice Eboué. Exactement. Les heures d'arrivée et de départ dans un hôtel quand vous avez réservé une chambre ne sont pas encadré par le règlement. C'est chaque hôtelier qui décide de l'horaire d'arrivée et de l'horaire de départ. Des arrangements sont possibles avec les hôteliers, mais il est d'usage. Écoutez bien.
L'usage.
Ça, c'est, il est d'usage d'arriver entre 19h et 20h.
Pas avant?
Pas avant.
Ah, je crois que c'est 15h.
Eh oui, moi aussi. Et de quitter sa chambre entre 11h et midi. Mais le président de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie précise qu'on peut parfois arriver plus tôt à 17h, voire 15h.
Mais tu pour sais moi, pourquoi c'est midi, je l'ai ma chambre.
Moi aussi, je pensais que
c'était
midi.
Ma chambre à midi.
Non, tu l'as
quittée
à midi.
C'est tu quittes ta chambre à midi. Non. Et qu'est-ce qu'ils font entre midi et 19h?
Il la loue.
Des passes?
Voilà, ouais. Il la loue à des prostituées.
Ils font des passes l'après-midi, bien sûr.
C'est pas
salopard.
Ça s'appelle le late check-out.
Ça s'appelle l'adultère, ça n'a rien à voir.
C'est totalement différent.
Le moment où on gratuitement on peut profiter un peu de la chambre un peu plus longtemps, généralement jusqu'à 13-14h, le late check out. Au-delà de 13h et jusqu'à 18h, on peut vous facturer 50% du tarif de la chambre.
Et oui, et ça s'appelle le day use.
Et après 18h, c'est 100%, évidemment. Voilà, voilà.
Ouais. Oui, mais c'est...
Ils sont vaches, les hôteliers, parce que faut vraiment s'entendre avec eux. Moi, très souvent, moi, je pensais que c'était 14h, mettons midi, 14h, 15h, peu importe. T'arrives à 19h. Ah, monsieur, on vous attendait plus. On est désolé. On a loué votre chambre.
À l'Ibis de la rue Saint-Denis, dis ça, toi.
Bien sûr. Si on appelait un ou deux hôtels pour voir quels horaires ils pratiquent, parce qu'apparemment, c'est vraiment en fonction des hôtels. L'hôtel de la Terrasse, elle était un plomb, l'hôtel de la Terrasse.
Ah, c'est où il est?
À Paris.
C'est,
dans
c'est combien d'étoiles, ça?
18e, je crois que c'est une étoile.
D'accord. L'hôtel de la Terrasse?
Non, parce que le Terrasse Hôtel, c'est un celui-là. Très bon hôtel
une
à Paris.
Une étoile dans le 18e, il loue à l'heure.
C'est un hôtel une étoile proche du marché aux puces, du Sacré-Cœur.
Mais ils n'ont pas le téléphone, je crois.
Allô, oui, bonjour, l'hôtel de la Terrasse?
Oui.
Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 et je vous appelle parce que dans le Figaro aujourd'hui, on nous parle des horaires de départ et horaires d'arrivée des clients. Et on aimerait savoir, vous, dans votre hôtel, à quelle heure on peut arriver quand on a réservé une chambre et à quelle heure on doit partir?
Moi, c'est 1h et partir midi.
On peut arriver à 13h l'après-midi et partir à midi le lendemain.
On peut y arriver même à 11h en par midi, mais...
Mais ça fait cher la chambre.
Bravo, vous êtes honnête, monsieur.
Non mais monsieur.
Oui.
Moi, mes heures, il commence à midi et finit à midi. Si j'ai des chambres disponibles à 11h, je refuse pas.
Eh oui.
Pour être clair.
Évidemment.
Mais il y en a qui viennent à minuit, il y en a qui viennent à 18h, il y en a qui viennent. Mais moi, j'ai mes applications 13h midi.
Vous êtes près du marché aux puces du Sacré-Cœur. Il y a tout confort chez vous. Douche, télé, internet dans l'hôtel.
Voilà.
Bon, très bien. Combien le prix d'une chambre en moyenne?
55€ pour deux personnes.
55€ pour deux personnes.
Est-ce que vous avez des gens qui viennent que l'après-midi, une heure ou deux?
Non.
Non, c'est marché aux puces, jamais ça.
Et puis pourquoi pas aussi que des proxénètes hôteliers, non?
T'es fou de dire monsieur, ça. Monsieur, attends. Sinon, on se met pas sur l'internet. On a des réservations mondiales.
On vous remercie pour votre gentillesse, monsieur. Allez, on essaye un 3 étoiles, vous êtes d'accord?
Un luxe, on fait pas.
Non, un hôtel de
luxe. Un palace, alors on essaye. Si on appelait le Saint James à Paris, ça vous va ça, le Saint James?
Ah, appelle le Fouquet's, mais de la part de Stevie. Essaye de voir.
Allez, on essaye le Saint James, c'est un grand hôtel, le Saint James à Paris quand
dans
même.
Dans le 16e?
Ah oui, dans le 16e arrondissement de Paris.
On va répondre tout de suite, là.
Saint James Paris, bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. On vous appelle parce que dans le Figaro aujourd'hui, il y a toute une enquête signée Mathilde Visserias sur les heures d'arrivée et heures de départ des clients. Heures possibles d'arrivée et heures obligatoires de départ. Et on voulait savoir, on teste différents hôtels, par exemple chez vous, à quelle heure on pouvait arriver et jusqu'à quelle heure on pouvait partir.
Je vous mets en relation avec le service commercial.
Bien
je
sûr.
Pense qu'ils prendront en charge un instant, s'il vous plaît.
On tient sa place au Saint James. Hein. Donc d'avant, ils s'en foutaient, mais là, on sent qu'il est l'air plus important qu'avant.
C'est incroyable qu'ils puissent pas répondre à cette information.
Comment ça fait engueuler? C'était une stagiaire.
Château Hotel and Private Club. Please hold the line.
L'orchestre est meilleur, déjà.
Ah, ils ont même une chanteuse.
Allô?
Oui.
Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil.
Bonjour.
J'expliquais à votre réceptionniste ou standardiste que dans le Figaro aujourd'hui, Mathilde Visserias, journaliste, fait une enquête sur l'heure d'arrivée et heure de départ possible ou autorisée ou obligatoire pour les clients dans les hôtels.
Oui.
Et alors on aimerait savoir, on a appelé différents hôtels de différentes catégories.
Oui.
Chez vous au Saint-James, à quelle heure on pouvait arriver le matin et jusqu'à quelle heure on pouvait partir le soir?
Nous n'avons pas d'impératif. Nous essayons de nous adapter en fonction des besoins de nos clients.
réunion. Donc, si on a qui arrive à 7h du matin, on essaye d'avoir leur chambre de disponible. Soit on pré-bloque leur chambre la veille pour qu'elle soit libre et qu'elle soit disponible, ou sinon, on essaye de faire au mieux.
Et à partir de quelle heure est-ce qu'on compte une journée supplémentaire, le check-out?
On ne compte pas d'heures supplémentaires.
C'est-à-dire qu'on peut rester deux nuits, il n'y a qu'une nuit qui est payée, en fait.
Ah oui.
Ah oui, c'est pratique. Vive le Saint James.
Ah oui, non, c'est vrai que on a énormément de réguliers, de clients réguliers, et donc du coup, ils connaissent le système.
Le principe.
Vous faites des suppléments oreillers ou pas?
C'est quoi un supplément oreiller?
Ah bah la dame connaît apparemment, puisqu'elle rigole.
Je ne sais pas moi ce que c'est un supplément oreiller.
C'est le langage, je dirais, codé.
Effectivement, c'est 13h, l'heure d'arrivée.
C'est le langage codé pour les filles de joie, comme on dit.
Vous 4 oreillers bulgares, s'il vous plaît. Et 2 traversins thaïlandaises.
Ah, je savais pas ça.
Ne te laissez pas l'histoire. Il y a un couple de retraités, tout bien sous tout rapport, qui va dans un hôtel normal et qui demande: bonjour, je voudrais un oreiller supplémentaire. Le type, d'habitude, bon, il appelle la fille l'escort girl, et la nanette, avec des barésies, monte dans la chambre, frappe en disant: et comment ça? Et les types disent: mais non, on voulait un oreiller. Et puis ils ont porté plainte.
Ah,
et c'est comme ça qu'on a su que c'était le terme.
On vous remercie en tout cas pour votre gentillesse et vos réponses. Pris. Merci madame.
Bonne journée, au revoir.
Europe 1, Europe 1. On va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ?
Bonjour, monsieur Bonaldi.
Bonjour.
Enfin, je vous ai déjà vu, pourquoi je vous dis bonjour ?
Ça fait 2 heures qu'il est là.
Une petite phrase. Dans le passé, il y a eu le mouvement de libération des femmes, la lèpre, le sida, la révolution sexuelle. Tous ces sujets étaient tabous, mais ces tabous ont été brisés. Le dernier du genre est le problème des toilettes.
Oh, ah, c'est demain.
Jack Sim, fondateur du WTO World Toilet Organization. Il faut s'y prendre à l'avance. Demain, journée internationale des toilettes.
Demain.
Donc c'est dès maintenant.
Donc faut prendre ses besoins à l'avance parce qu'il va y avoir du monde demain.
Ouais, non, mais il est grand.
C'est journée porte ouverte.
Alors il y a le côté. Il y a le côté.
C'est très convivial. T'es enceinte, t'es au bout du rouleau. Hein.
Et on va pas se faire chier mercredi.
Alors il y a le côté sérieux. Il y a un tiers de l'humanité qui a pas accès à des toilettes correctes, avec en gros tous les problèmes que ça peut poser derrière.
Et
c'est un vrai problème.
Les sanitaires.
Le côté intellectuel ensuite. Je vous ai ramené quelques petits livres pour que vous sachiez un petit peu l'enjeu des toilettes. Voici le livre à lire aux toilettes. Le dernier, pas mal, de Misio.
François de Closette.
Il y a celui qui est déjà un classique. Comment chier dans les bois.
Par W.C. Fields.
C'est un très beau livre américain, un succès qui ne se dément pas, pour une approche environnementale d'un air perdu. Comment chier dans les bois, c'est pas mal.
Pissette.
Où sont les toilettes? De Isabelle Monrosier. Les lieux.
Monrosier, ça c'est un joli nom.
Les lieux, histoire de communauté de Paul-Henri Guérand. Il y a le grand livre du caca pour les enfants. Il y a des grands écrivains. Henri Miller a écrit Lire au cabinet. Petit livre formidable, très intéressant quand vous êtes un peu constipé.
C'est un livre à lire sans lunettes, ça.
Et il sort de derrière. Et puis, maintenant, le côté plus sympathique, le papier cul.
Ah. Alors,
on a tous en tête des...
Ah oui, fais péter, j'adore.
Ah bah fais péter, non.
Regarde, il est orange fluo, c'est le papier cul de Casimir.
J'adore, j'adore.
Enfin,
non,
du papier de couleur.
Ah oui.
Ouais, du papier pas blanc. Alors, c'est Renova qui avait fait ça le premier.
Ça, chez Stevie, ça va faire fureur.
Allez,
le rose, là.
Moi, je veux du
alors... Noir. Il y a Renova qui est une entreprise.
Non, le noir c'est pas bien parce que tu sais pas si tu.
Ben oui. Tu dis c'est putain, y a rien.
Et il est micro encapsulé. Non mais
il est pardon, il est.
Il est micro encapsulé. C'est-à-dire que un petit peu comme dans les fibres de tissu, là dans la fibre du papier, il y a des petites capsules.
Il est lavable en machine.
Non. Des petites capsules qui, au contraire, éclatent lorsque tu écrases le papier.
Ça doit faire mal.
Mais non.
Ça a l'air de faire du bien.
Il y a de l'huile dedans, une petite crème. En même temps que tu te torches, ça te met un petit peu.
C'est hydratant.
J'ai honte.
Ouais, c'est hydratant.
J'ai honte. Génial. Pierre Benichou, je suis d'accord avec vous. Je ne pensais pas tomber si bas. Mais
je n'ai pas voulu cela, mes chers parents.
Oh, le verre est très joli, j'adore le verre.
Je n'ai pas voulu tomber là-dedans. Oh, le verre est très bien. C'est nul. Et est-ce que je peux en avoir?
Non.
Et il est parfumé, oui. Ouais. Il est parfumé.
Ton papier, tu peux te le foutre au cul, moi, ça m'intéresse.
Et là, c'est uniquement les bonnes feuilles.
C'est vrai que le noir. Ce qui est bien, c'est le rouge pour les femmes.
Oh non.
Parce que.
Oh non.
Je pensais que personne n'oserait. Non. Là, je me suis dit. Je suis pas plus con qu'un autre. Dès que je l'ai vu, il y a 10 minutes, je me suis dit, quelqu'un de vulgaire, il ferait ça, mais pour le chenou.
Bon, dites autre chose, Jérôme. Bon,
c'est une guitare électrique, sauf qu'elle est, elle est pas comme une guitare. Il y a que le bout. C'est-à-dire, vous savez,
c'est
tout le.
C'est une guitare électrique pour Michalak, hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Comme si on l'avait coupé. Il y a que le manche. Il y a que le manche et encore toute une petite partie du manche. Mais l'intéressant, c'est que vous appuyez sur les petits boutons, c'est électrique, ça marche avec des piles et ça s'appelle Rockstar, guitare Rockstar, et ça fait de la musique quand même.
15 à 20 euros.
Comment est-ce qu'on fait pour gratter les cordes puisqu'il n'y a pas de cordes? Eh bien, il suffit de passer les mains comme si c'était. Vas-y, mon petit Michalak.
Oh non.
Oh, c'est virtuel.
Mais les gens voient pas.
Faut expliquer.
Mais rien à voir parce qu'en fait,
faut expliquer.
Il tient un petit bout de bois dans les mains.
C'est comme s'il y avait dans une main un ordinateur et rien dans l'autre et qu'il m'y mêle.
Voilà. Il y a un phaser, je passe.
T'as l'impression que c'est un truc pour manchot, je sais pas pourquoi.
Ouais, c'est ça, c'est la première guitare pour manchot.
C'est la guitare invisible en quelque sorte.
Voilà, les cordes sont invisibles. Mais c'est une vraie guitare où on peut vraiment faire des riffs, on peut gratter simplement. C'est pour le petit-fils. Pour Pépito, enfin le futur Pépito. C'est un album photo.
C'est des croquettes.
Un album photo.
Ou pour Clara,
jouet,
la petite fille de Pierre.
Mais il n'a que 5, il n'a que 1, 2, 3, 4, 5 pages. Sauf que lorsque l'enfant tourne la page pour ouvrir son album photo, en face de la photo de Laurent Ruquier.
Oh, c'est génial!
Chaque fois qu'on ouvre l'album, il y a un son que vous avez, vous, adulte, préenregistré.
Ah, c'est pas
et
mal.
Qui raconte l'histoire. Alors là, vous avez l'histoire de papa et vous dites, ah, c'est l'histoire
là, c'est
de papa.
C'est le gros con de tonton machin.
Oui. Voilà. C'est rigolo. Je vous en mets une autre page.
Oh oui, oui, oui.
On va faire comme ça. Vous enregistrez, Pierre, s'il vous plaît, une chanson.
Pour mon petit-fils. Allez, là, pour allez-y. Mon petit-fils.
Allez-y.
Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un bouquet de roses.
C'est bon, on essaye. Attention.
C'est un peu saturé.
Et tu veux qu'on reste dedans?
On a un peu saturé. Ouais. On a un peu saturé, bon.
Pierre, c'est votre premier enregistrement. On termine, Jérôme, par...
Le problème des éponges. Vous savez qu'avec la spécialisation de toutes les éponges, il y a l'éponge pour les toilettes, l'éponge pour la salle de bain, l'éponge pour la cuisine, l'éponge pour le sol, etc. Les 50 ans de... Parce qu'il n'y a pas que les 80 ans du Mickey. Camarade Mickey, il y a les 50 ans de Spontex, 3M, qui fait un truc malin, qui peut servir... C'est juste un coup, mais que ça peut servir pour plus tard. C'est comment savoir quelle éponge est la bonne. Ils ont fait une sorte de maison.
Les 50 ans de l'éponge. Bon anniversaire, monsieur Borloo.
Ouais. Ils ont fait une maison en éponge qui fait 30 cm sur 30 cm, une sorte de mur qu'on peut accrocher au mur, une plaque. Et dessus, ils ont incrusté des éponges en forme de
ce qu'il faut nettoyer.
Pour ce qu'il faut nettoyer. Hein, ça, c'est.
Ah oui, couverts. L'éponge en forme de baignoire parce qu'on sait que c'est pour la baignoire.
Voilà. C'est pas con, ça.
Ça, c'est
l'éponge en forme de casserole pour la cuisine.
Voilà. Est-ce qu'il y a des recharges?
Hélas, non, mais après, vous les mais peut-être que ça va être un tel succès qu'ils vont refaire les derrière.
Mais il n'y a pas d'éponge à chiottes, alors.
Moi, si, c'est la rose, là.
Moi, qui cherchais.
Je crois que c'était une main.
Non, c'est les toilettes.
Ça, tu fais les chiottes.
Moi, qui cherchais un cadeau pour mon personnel, pour Noël, voilà, j'ai trouvé.
Un cadeau.
Pour faire la vaisselle.
Allez, on termine.
Avec un petit chien, on en chante.
On l'a pas eu il y a 10 jours, lui.
Oh, non, c'est pas le même, c'est un autre.
Ah, il est génial.
Il a les oreilles qui se dressent.
Il fait rien, il est assis. Il bouge la tête.
Il a les oreilles qui se lèvent.
Et chaque fois qu'il y a, wow, il a des grosses longues oreilles.
Faut expliquer que c'est un chien avec de longues oreilles pendantes qui d'un seul coup. Ça pour l'anniversaire du prince Charles, ça aurait été sympathique. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.
À demain, c'était Laurent Ruquier.
Europe1.fr a changé. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcasts.
Europe1.fr/radio. Europe 1.fr.